Bonsoir à toutes et à tous. Un troisième confinement en février. Olivier Véran l'envisage sérieusement si le couvre-feu ne produit pas ses effets. Alors ce sont surtout les variants anglais, brésiliens ou sud-africains qui inquiètent, hein, car plus contagieux, ils seraient aussi capables d'infecter des personnes déjà tombées malades et qui se croyaient immunisées. En attendant, le gouvernement accélère sur la vaccination. Olivier Véran avance même l'hypothèse de pouvoir vacciner toute la population d'ici fin août. Mais d'ici là, faudra-t-il reconfiner? Et si oui, comment? Le Conseil scientifique avance la piste d'un autoconfinement qui serait ciblé sur les personnes à risque. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Variant, un reconfinement en février ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Amouyel. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Lille, et je précise que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL. Vous suivez l'épidémie depuis le début, donc depuis près d'un an maintenant. En visioconférence, on retrouve Jean-Paul Hamon. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération française, de la Fédération des médecins de France. Et vous venez de publier « Qui veut la peau de nos généralistes ?» C'est chez Albin Michel. Et enfin, Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire », c'est dans les éditions Lavoisier. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Philippe Amouyel, on commence avec vous. On sent bien une effervescence et des messages qui nous viennent sur un troisième confinement, un reconfinement dès le mois de février. Pourtant, si on regarde ces chiffres quotidiens sur les contaminations, 22 848 contaminations pour la journée d'hier, on est toujours sur ce plateau. Il n'y a pas de flambée d'épidémie.
Non, il n'y a pas eu de flambée à la suite des fêtes de fin d'année. Mais il faut le surveiller. Il peut y avoir un développement. Le problème de l'évolution exponentielle, c'est que ça démarre très lentement et tout d'un coup, ça s'accélère. Pour savoir si ça s'accélère, par exemple, avec le variant anglais, il faudrait qu'on sache combien, quel est le pourcentage de variant anglais. Or, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, dans le doute, on réfléchit, on s'appelle et surtout, on surveille et on reste en alerte pour anticiper cette augmentation. Alors, peut-être un confinement si on doit y aller, mais il y a des mesures intermédiaires à prendre avant. Le couvre-feu, est-ce qu'il est efficace ou pas? Il va falloir attendre ces résultats. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut voir, c'est-à-dire un suivi très précis de l'évolution de l'épidémie.
Anne-Claude Crémieux, l'autre indicateur qu'il faut regarder au-delà des contaminations, ce sont les admissions à l'hôpital. Alors, par exemple, vous, à l'hôpital Saint-Louis, est-ce que, il y a de plus en plus de lits occupés au service de réanimation? Est-ce que la situation vous semble inquiétante? Parce que c'est ça, on fait tout ça pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés, hein.
Non, l'hôpital reflète ce plateau très discrètement ascendant, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations, mais qui restent très petites. Un jour, il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations, le lendemain, ça reste stable. Donc, on ne voit pas à ce stade d'accélération du nombre d'hospitalisations.
Alors, pourquoi cette crainte et pourquoi parle-t-on autant d'un reconfinement alors que ni du côté des contaminations, ni du côté des admissions à l'hôpital, il n'y a de flambée?
Alors, je crois que c'est tout à fait clair. Depuis plusieurs semaines, nous le disons, la vraie menace, c'est ce variant anglais qui est donc avec une augmentation de la transmission de 50%. Et on a vu, c'est l'expérience en Angleterre, que lorsqu'il commence à atteindre un certain niveau dans un pays, ça se traduit par une accélération extrêmement rapide et avec, là, très rapidement, une augmentation des admissions et en Angleterre, des hôpitaux qui ont été totalement submergé. Donc, tout l'objectif des autorités sanitaires dans les pays dans lesquels ça n'est pas encore arrivé, c'est d'éviter de prendre des mesures avant cette accélération extrêmement brutale. Alors, ça a été dit, moi je crois que c'est important, malheureusement, on a une absence aujourd'hui de lisibilité, de visibilité sur quel est le taux de pénétration de ce virus dans notre pays. C'est malheureux parce que c'est ça qui nous permettrait de prévoir le temps qui nous reste avant cette accélération. Alors j'espère qu'on va quand même rapidement avoir des idées un peu plus précises sur où en est-on sur la circulation de ce variant anglais dans le pays.
Sophie Orange, parce qu'on a toujours, on donne toujours ces mêmes chiffres là, entre 1 et 2 %.
Voilà. En fait, c'est des chiffres qui sont basés sur une enquête flash, comme on le dit, c'est-à-dire on a analysé tous les dépistages, les prélèvements positifs des 7 et 8 janvier. Donc c'est une estimation sur 1,4% et le séquençage, c'est-à-dire la carte d'identité très précise de ces virus pour savoir si effectivement c'est le variant anglais. Ce séquençage a pris du retard parce que il a fallu rajouter dans les machines tous les clusters où il y avait énormément de cas positifs, où il y avait une suspicion. Donc, c'est rajouté à ce travail, voilà, toute une succession de prélèvements à analyser. Mais normalement, donc, on connaîtra fin du week-end, début de semaine prochaine, les résultats. Donc, est-ce que ce sera encore 1,4 ou finalement 2 ou 3, on le saura. Et ensuite, dans la semaine prochaine, sera réalisée une deuxième enquête flash, à nouveau sur un jour, deux jours, pour voir la progression. Parce qu'effectivement, c'est la cinétique qui est importante. Si on se retrouve avec 10% du variant anglais la semaine prochaine, eh bien, effectivement, l'histoire ne sera pas du tout la même. Et du coup, ce confinement dont on parle, ce serait peut-être un confinement préventif, alors que le confinement du mois de mars était un confinement curatif, c'est-à-dire qu'en mars, il n'y avait plus le choix, il fallait vraiment soigner le malade. Là, on peut encore sauver le malade. Ce serait deux confinements finalement assez différents et peut-être plus courts. Mais clairement, le gouvernement n'attendra pas 50 000 nouvelles contaminations par jour pour reconfiner. Ça, c'est assez clair. 50 000 nouvelles contaminations par jour, c'était le chiffre de novembre au moment du deuxième reconfinement en novembre.
Voilà. Et là, alors que là, on est à 22 848 cas. Jean-Paul Hamon, vous qui êtes en contact quotidien avec des malades, est-ce que vous sentez cette inquiétude vis-à-vis du variant anglais ? Et est-ce que les patients vous semblent prêts à accepter un troisième confinement ? On le disait juste avant l'émission, ça fait près d'un an que ça dure maintenant.
Bon, l'inquiétude est palpable dans toutes les consultations, pas seulement à l'égard du variant anglais. On voit bien, et puis il y a eu cette idée de confiner les personnes fragiles de plus de 75 ans. Je peux vous dire que ça, c'est plutôt mal vécu, parce que ce sont justement les personnes qui font le plus attention, qui respectent strictement les mesures barrières, et vraiment, ceux-là, ils sont pas prêts d'encaisser un confinement ciblé comme ça. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir ce qui se passe actuellement à Dieppe, d'identifier le virus qui sévit à Dieppe, parce que ce serait intéressant de voir si ce n'est pas le variant anglais, parce que l'hôpital de Dieppe est absolument débordé. Or, à Dieppe, il y a un ferry qui arrive d'Angleterre en direct 4 fois par jour. Et ce n'est pas avec une attestation de PCR négative que les gens peuvent maintenant télécharger sur Internet sans la faire. C'est pas avec.
Attendez, vous dites, ça se télécharge. Il y a des gens qui fraudent en se téléchargeant des attestations de PCR négatifs, sans avoir besoin de le faire.
Ça commence à se savoir, d'autant plus qu'en Angleterre, vous payez le test. Hein, ça doit coûter près de 100 ou 150 euros. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie de débourser 150 euros. Et en plus, il ne faut certainement pas croire que les gens vont simplement donner leur parole de rester confinés pour les croire. Donc, là aussi, si vous voulez, j'ai été un peu surpris des propos de Jean Castex. Il faudrait maintenir les gens qui arrivent du Royaume-Uni au moins 7 jours, leur faire un test PCR et ensuite, ils auraient le droit de sortir. C'est pas pour empêcher le variant anglais d'arriver, il est déjà là. Mais tout ce qui pourra ralentir l'arrivée de ce variant anglais sur le territoire serait une bonne chose. Et ce serait bien que les Européens, la Belgique et la Hollande, parce que les gens qui voudront venir, ils vont contourner la France. Hein. Ça va être comme la ligne Maginot. Donc, s'il y avait une politique européenne cohérente et qu'on confine les gens pendant 7 jours et qu'ils aient le droit de sortir avec une PCR négative au bout de 7 jours, je pense qu'on serait déjà un peu plus rassurés, on aurait gagné un peu de temps.
Alors, Jean-Paul Hamon, vous en parliez à l'instant, hein, vous faisiez allusion à la situation sanitaire dans l'hôpital de Dieppe. C'est vrai qu'on a identifié 260 personnes contaminées, dont 140 soignants, donc des personnes qui pourtant portent le masque, hein, toute la journée. Et puis, on l'a dit par ailleurs, c'est le variant anglais, hein, qui inquiète beaucoup, au point que nombre de médecins se prononcent désormais en faveur d'un reconfinement rapide de tout le pays. Vous voyez ce sujet de Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
Le virus s'est propagé à une vitesse fulgurante. En quelques jours, tous les services de l'hôpital de Dieppe sont touchés par le Covid-19. En tout, 141 membres du personnel et 123 patients infectés.
Ça a commencé il y a 15 jours dans deux services, la pneumologie et la cardiologie. Et en 15 jours, ça s'est étendu comme une traînée de poudre.
40% des actes non urgents de chirurgie sont déprogrammés. Les soignants enchaînent les heures et les patients continuent d'affluer. L'ARS a fait appel à la réserve sanitaire nationale, un appel à l'aide relayé par le maire de la ville.
Il faut que tous les moyens humains, tous les moyens sanitaires possibles soient déployés là où on en a besoin. Et puis, il est urgent qu'on accélère sur le vaccin. C'est ça, l'urgence.
Accélérer la vaccination. L'un des sujets abordés hier par Olivier Véran, invité du journal de 20h de TF1. Le ministre de la Santé s'est d'ailleurs montré particulièrement serein.
Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août.
Une affirmation étonnante. Plutôt, face aux sénateurs, le ministre de la Santé était beaucoup plus prudent, voire même pessimiste, par rapport aux objectifs.
Même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été, raison pour laquelle nous demandons la poursuite d'ailleurs de mesures de protection sanitaire jusqu'à l'automne.
Des affirmations contradictoires. Alors qu'une semaine après l'annonce du couvre-feu avancé à 18h, les contaminations restent à un niveau élevé. Près de 23 000 nouveaux cas de Covid-19 hier. Plus inquiétant, le taux d'occupation des lits en réanimation remonte. Hier, il atteignait 56,7% pour la première fois depuis la mi-octobre. Dans une tribune publiée il y a une dizaine de jours, des médecins et scientifiques encouragent le gouvernement à mettre en place un nouveau confinement.
Le confinement strict et précoce est la meilleure arme contre la propagation virale, même s'il est de plus en plus mal vécu par la population.
Un appel lié à l'apparition sur le territoire des variants anglais ou sud-africains. Plus contagieux, ils pourraient même résister aux anticorps des personnes déjà infectées au Covid-19. Pour Arnaud Fontanet du Conseil scientifique, si la situation se dégrade encore, il faudra en effet s'inspirer du Royaume-Uni.
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont fait des mesures de plus en plus fortes sans contrôler le variant. Ils n'ont réussi à le contrôler qu'à partir du moment où ils ont fait un confinement strict, type ce qu'on avait connu au mois de mars en France. Et c'était pour l'Irlande le 31 décembre, pour l'Angleterre le 4 janvier. Et seulement depuis, on voit la progression du variant diminuer.
La piste d'un reconfinement n'est pas exclue au sein de l'exécutif qui continue de faire face à une avalanche de critiques après les masques, les tests et désormais la campagne de vaccination. Le chef de l'État s'est d'ailleurs montré agacé hier.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour.
Première mesure pour contrer la propagation des variants du Covid-19, le gouvernement encourage à ne plus utiliser les masques en tissu et à respecter une distance de 2 mètres entre personnes.
Question téléspectateur, les derniers foyers apparus, Compiègne, Dieppe, Antibes ou Antibes, sont-ils dus à des variants du virus ? Anne-Claude Crémieux, vous qui travaillez en hôpital, c'est vrai qu'on est très surpris de voir que dans un hôpital comme celui de Dieppe, il y a ainsi eu 260 contaminations, dont 140 soignants. Parce que comment ça se passe ? Vous avez le masque toute la journée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé ?
C'est terriblement suspect. C'est exactement comme ça qu'ont démarré les épidémies de variants anglais en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique. C'est-à-dire que c'est le signe, c'est vraiment là, et même en Afrique du Sud, c'est ça le signe de l'augmentation de la transmissibilité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des clusters qui regroupent un nombre de gens qu'on n'avait jamais vu avant. Donc c'est éminemment suspect. Malheureusement, nous avons eu aussi un cas dans notre hôpital. Et là aussi, ce qui était extraordinairement frappant, c'est le nombre de personnes qui avaient été touchées. Malheureusement, ce que ça veut dire, c'est que le variant anglais diffuse sur notre territoire et effectivement, en toile de fond, on l'a dit, une possible accélération de l'épidémie dans les semaines qui viennent. On n'attendra peut-être pas mars, comme ça a été dit par certains épidémiologistes. Et on comprend que les autorités soient inquiètes et commencent à parler de confinement.
Philippe Amouyel, est-ce que ça veut dire que le masque ne sert pas à grand... Enfin, que le variant anglais passe à travers le masque Je vous pose la question parce qu'on sait qu'en Angleterre, ils étaient assez négligents, ils ne le portaient pas dans la rue. Donc on se disait, ah oui, mais l'Angleterre a été ravagée par le virus, le variant anglais, parce qu'ils ne portaient pas trop le masque là-bas.
Alors en effet, avant l'épidémie, avant la montée des chiffres en Angleterre, les pubs étaient ouverts, les gens sortaient, il y avait du monde dans les rues à Londres, voilà. Donc il y avait quand même une non-prise en compte des mesures barrières, parce que ça reste quand même les mesures barrières, les meilleurs outils pour bloquer la progression du variant. Donc c'est pas tellement que le masque protège pas, c'est la façon dont on le porte, c'est la façon dont on respecte ces mesures barrières. S'il y a un peu de relâchement, le virus en profite, d'autant plus avec l'infectiosité qui est augmentée, pour ce nouveau variant. Donc on doit redoubler les mesures barrières de toute façon, même si on doit reconfiner, c'est ça qu'il faut faire en premier. Et peut-être qu'il y a peut-être eu un cluster qui ressemble plus à une infection nosocomiale, une transmission. À Lille, on a eu deux cas isolés chez des soignants, dont un était contact de l'autre, et puis pas d'autres pour l'instant. Mais il va falloir qu'on le trace plus vite. Pourquoi ? Parce que 1 à 2%, ça fait une projection à mars, avril, mais si c'est 4 ou 5, ça va être beaucoup plus tôt. Donc, il faut absolument qu'on sache quel est le seuil et à quelle vitesse il progresse.
Donc, le masque, quand même, reste malgré tout une barrière, y compris barrière, face aux variants anglais.
Le masque chirurgical ou le masque de catégorie 1 qui filtre 90% des
particules. Pas le masque en tissu.
Pas le masque en tissu qu'on a fabriqué à la maison. Celui-là, je pense qu'il faut le ranger définitivement dans son placard. Acheter dans le commerce, 95% des masques qu'on trouve filtrent à 90%. Donc, les masques qu'on achète dans le commerce sont protecteurs et les masques chirurgicaux, bien sûr.
Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour se rendre compte que le masque en tissu qu'on avait fait chez soi avec sa machine à coudre, finalement, il ne servait pas à grand-chose.
Parce que le variant anglais change un petit peu la donne. De même que le Haut Conseil de Santé publique a recommandé de nouvelles règles de distance quand on ne porte pas le masque. Jusqu'à maintenant, on était considéré comme cas contact quand il y avait un mètre de distance. Désormais, c'est 2 mètres de distance. Donc forcément, ça fera beaucoup plus de personnes à tracer. Mais voilà, le variant anglais, très clairement, change la donne. Et là, pour le moment, on laisse sa chance au couvre-feu national à 18h. Depuis le 2 janvier, dans les départements où elle a été mise en place, l'incidence baisse de 12, 13, 15%. Donc ça semble fonctionner, c'est sans doute pas la seule raison, mais ça semble fonctionner. Donc on verra la semaine prochaine s'il y a un petit frémissement sur les villes qui sont passées au confinement à 18h, au couvre-feu à 18h.
Jean-Paul Hamon, est-ce que vous avez, quand quelqu'un est positif dans votre cabinet, est-ce que vous avez moyen de lui dire c'est le variant anglais ou vous êtes aveugle ? Non, vous avez le coronavirus, mais je ne suis incapable de vous dire quelle souche vous avez eue.
Non, je suis incapable de lui dire il est positif, point. On n'a pas de séquençage dans le laboratoire à côté de chez moi. Donc, on prend les précautions habituelles. On isole les cas contacts et puis on les teste quelques jours plus tard.
Il y a des PCR quand même qui détectent le variant anglais.
Oui, on fait les PCR, bien sûr.
Mais on ne sait pas à l'issue d'un test PCR.
C'est des thermofisher, c'est un certain type de machine.
Anne-Claude Crémieux, ce qui est inquiétant dans ce variant anglais, c'est qu'il y a des études qui montrent que les personnes qui ont déjà été malades ont développé des anticorps et elles se croient donc immunisées. Apparemment, ce variant anglais se moque de ces anticorps et infecte à nouveau des gens qui ont déjà été malades. Est-ce que même dans l'hypothèse, est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'il faut s'inquiéter sur le fait que le vaccin fonctionne contre ce variant anglais ?
Alors non, c'est peut-être la seule assez bonne nouvelle de la soirée, c'est que là, il y a eu une étude qui vient d'être publiée, enfin pré-publiée, qui a été faite avec le sérum de sujets vaccinés par les vaccins ARN messager Pfizer et Moderna, et on a montré que le sérum de ces sujets vaccinés était capable de neutraliser le variant anglais. Donc, sur le variant anglais, il semble que cette inquiétude est en train de s'éloigner. A priori, les vaccins marchent sur le variant anglais. La situation est différente sur le variant sud-africain qui a des mutations un peu différente au niveau du site critique de la spike protein qui s'appelle le récepteur binding protein. Et là, il semble que cette mutation associée à d'autres diminue la capacité neutralisante du sérum des patients qui ont déjà eu une infection, c'est-à-dire des patients convalescents, ou malheureusement aussi du sérum des patients qui ont été vaccinés. Alors, c'est une diminution de l'activité, ça ne veut pas dire que le vaccin est inefficace, parce que c'est souvent difficile de faire une corrélation stricte entre une diminution d'activité et l'efficacité du vaccin. Donc, on ne peut pas dire encore que les vaccins ne ne sont pas efficaces, mais c'est sûr que c'est une préoccupation. Je parle bien là du variant sud-africain. Sud-africain pour l'instant, et donc c'est en cours d'exploration. Mais encore une fois, côté anglais, vraiment les données sont plutôt rassurantes.
Philippe Amouyal, c'est quand même terrible parce que ce virus, il était très stable pendant 9 mois et on a l'impression là que, comme d'une saison 2, un peu partout dans le monde apparaissent des variants qui sont beaucoup plus retors et beaucoup plus contagieux.
Non, il n'était pas très stable. Hein. Il a muté plus de 12 000 fois. Il y a 12 000 mutations recensées, mais elles ne sont pas tombées au bon endroit. C'est le principe de l'évolution. Et là, il a trouvé un moyen de se multiplier plus vite, donc il le garde et c'est cet élément qui devient dominant. Et pour réduire ça, c'est les mesures barrières, c'est éviter qu'il se multiplie, c'est bloquer tout ça avec la vaccination pour éviter qu'il se multiplie trop, qu'il refasse de nouveaux variants. La question reste toujours posée. On a le variant britannique, peut-être qu'il y aura un autre variant qui va sortir. Il y a le sud-africain qui est en train de venir aussi. Donc il faut bloquer et vacciner vite, vite, vite.
Mais quand vous dites on a ce variant qui devient dominant, c'est inéluctable. Est-ce qu'on peut garder notre... Est-ce que l'objectif, c'est de garder sur la France, sur le territoire français, l'ancienne souche, ou est-ce que c'est un peu un combat perdu d'avance?
C'est le virus qui décide. En Angleterre, c'est la souche qui est en train de dominer et d'écraser la précédente. On risque d'avoir le même scénario en France.
Où est-ce qu'ils en sont d'ailleurs, les Anglais? Ils sont confinés, 1400 morts hier.
Ils battent des records. Battent des records en termes de décès. Alors les décès, c'est toujours un décalage par rapport aux nouvelles contaminations. Mais clairement, la situation partait déjà de très très haut dans les hôpitaux anglais. Donc la situation n'avait rien à voir à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a à nouveau des transferts des Alpes-Maritimes vers les Bouches-du-Rhône, par exemple. La Rochelle, Rochefort, Saintes, ce sont des hôpitaux qui sont aujourd'hui débordés. Mais voilà, la situation générale française n'est pas celle de la situation des hôpitaux britanniques au moment où le variant anglais est arrivé. D'ailleurs, on dit variant anglais, mais l'OMS n'aime pas du tout qu'on dise variant anglais, brésilien, sud-africain, comme Trump disait le virus chinois, considérant que ça stigmatise, il faudra employer des noms un peu barbares que vous appréciez, vous, les scientifiques, de VOC, etc., avec plein de numéros compliqués. Mais pour faire simple,
d'ailleurs, Anne-Claude Crémieux, pourquoi on dit variant anglais? Parce que c'est là qu'on l'a identifié. De même, pourquoi on dit variant sud-africain et variant brésilien? C'est un peu...
Pareil, parce que c'est là où il a été identifié, c'est probablement de là dont il part. Et donc, c'est vrai, l'OMS nous reproche d'utiliser ces mots, mais il y a une telle confusion qui règne sur la façon de les appeler que pour l'instant, je préfère être clair.
Nous, comme on fait peu de séquençage, on a peu de chances de trouver un variant français.
Ne faites pas de mauvais
esprit. C'est exactement ça. Il faut dire qu'effectivement, il faut féliciter ces pays comme l'Angleterre ou même l'Afrique du Sud qui, grâce à leur réactivité en termes de séquençage, ont été capables d'identifier ces variants. Même les États-Unis se trouvent démunis en disant « mais c'est incroyable, malgré nos laboratoires, nous n'avons pas de système de surveillance ». Pareil pour l'Allemagne, qui pourtant a des virologues de très haute qualité, et ils s'aperçoivent tout à coup brutalement qu'ils n'ont pas de réseau de surveillance, de séquençage. Et je dois dire que c'est la première fois dans l'histoire des épidémies qu'on essaye d'anticiper ce qui va se passer sur la base d'une observation de la séquence du virus. On est en train de vivre quand même une révolution en matière de maladies infectieuses avec ces nouveaux vaccins absolument révolutionnaires et avec ces nouvelles façons de surveiller des épidémies.
On va y revenir sur les vaccins. Sophie Oranche, il n'est pas encore écrit qu'on est à ce troisième confinement. On espère que le couvre-feu va fonctionner. C'est vrai qu'en France, quand même, on a le port du masque qui est très respecté. On interdit, contrairement aux voisins, on ferme les stations de ski. Est-ce qu'on peut espérer que ce couvre-feu, qui est un peu la patte française, fonctionne?
Alors, on ne va pas se croire plus fort que les autres. C'est un petit peu le péché qu'on a eu au mois de mars, en se croyant plus fort que les Italiens, en disant non, c'est en Italie, nous, on sait mieux faire. Donc, je pense qu'il y a une grande humilité, en tout cas au niveau des autorités, pour observer et être prêt à réagir si le fameux caractère exponentiel de l'épidémie démarre. C'est-à-dire que si, en 3 jours, on passe tout d'un coup à 30 000 nouvelles contaminations, là, clairement, il y aura une décision immédiate. Donc, effectivement, ce couvre-feu semble produire ses effets.
Les Anglais sont à 40 000, on vient de me donner le chiffre.
Voilà,
on est à 22 000.
Voilà, et les Allemands sont sous confinement alors qu'ils sont à peu près au même nombre de contaminations par jour que nous. Vous voyez, chaque pays réagit un peu différemment en fonction de son passé, en fonction de son opinion aussi.
Mais le couvre-feu, Philippe Amouyal, hier, le ministre le rappelait encore, là où il a été mis dans les 17 départements de l'Est, on a vu une baisse jusqu'à 17% des taux de positivité.
Oui, ça a l'air de marcher. Il reste un seuil élevé, mais la courbe va dans le bon sens. Et puis, un deuxième événement qui ne va pas tarder à arriver, c'est les vacances. Il faut vous rappeler qu'au cours de la deuxième vague épidémique, on avait D'abord, un couvre-feu, bon, à 21h, avec toutes les limites que ça a. Il y a eu les vacances et ensuite, il y a eu le confinement. Donc là, on va être sur une séquence avec couvre-feu et vacances. Et là, il y a une diminution quand même de la circulation, surtout qu'on ne va pas pouvoir partir au ski. Il va falloir éviter de partir à La Réunion ou à Mayotte, hein, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui du virus sud-africain. C'est vraiment important. Et donc, peut-être que ça va aussi jouer. Ça va peut-être nous repousser. Mais ça va vraiment dépendre de la cinétique du variant anglais. Et on ne la connaît pas aujourd'hui.
Jean-Paul Hamon, alors sommes-nous prêts à un troisième confinement? Là, les vacances commencent le 6 février. Est-ce que ce seront des vacances? On sera assigné à résidence, donc on ne peut pas aller dans les stations de ski, on ne pourra pas bouger, est-ce qu'on serait prêt à ça? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire?
Écoutez, moi, les grandes transhumances, la première grande transhumance qui avait eu lieu qui avait précédé le premier confinement, on n'avait pas observé d'augmentation de l'épidémie. Hein. Les gens s'étaient déplacés d'un point à un autre et ils avaient respecté le confinement sur place. Donc, je pense que là, comme les stations de ski, malheureusement, vont être fermées.
Pourquoi vous dites malheureusement Parce que vous êtes un skieur ou bien parce que vous trouvez que c'est inutile de les fermer?
Pas du tout. Moi, vous savez, ça fait un moment que je me suis mis au ski de fond, donc je prends plus les remontées mécaniques. Mais c'est vrai que, curieusement, si vous voulez, on ferme les remontées mécaniques. Or, c'est pas sur les remontées mécaniques qu'on se contamine. C'est dans des appartements de montagne et tout le monde sait que tout le monde n'a pas des grands chalets luxueux. Et on sait bien que les appartements en montagne sont plutôt petits et que quand il fait nuit, on n'a pas tendance à ouvrir la fenêtre pour aérer l'appartement. Donc c'est là le paradoxe de la fermeture des remontées mécaniques. Mais bon, ceci étant, on a su qu'ils avaient fermé les stations de ski pour éviter que les hôpitaux soient encombrés davantage par toute la pathologie traumatologique qui fait que les hôpitaux du secteur sont toujours chargés en période d'activité de ski. J'ai une petite pensée pour les médecins de montagne là, qui sont actuellement au chômage technique et qui sont un petit peu oubliés par le ministère dans toutes les indemnisations qui se passent en ce moment. Il y a toutes les professions de montagne qui sont touchées actuellement. Mais non, je pense que les vacances vont être l'occasion d'une transhumance et que ça ne va pas être l'occasion justement d'une augmentation des cas et qu'au contraire, les écoles étant fermées, la contamination sera moindre et on observera, j'espère, une baisse des contaminations parce que là, cette fois-ci, on n'a pas Noël et on n'a pas le premier de l'an pour augmenter les fréquentations. Voilà.
Anne-Claude Crémieux, que pensez-vous de la piste qui a été évoqué par le conseil scientifique et par votre confrère, le professeur Odile Launay de Cochin, d'un confinement ciblé sur les personnes les plus fragiles et donc sur les seniors en particulier?
Je trouve ça assez paradoxal qu'on parle de ça maintenant, alors qu'en réalité, la seule façon de protéger les personnes fragiles, c'est vraiment le vaccin. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de confiner les personnes fragiles, il s'agit de les vacciner. C'est ça qu'il faut accélérer.
Ouais. Philippe Amouyel.
On n'a jamais vu aucun pays qui a mis ça en œuvre avec un résultat. Et puis, confiner une personne de plus de 75 ans, ça n'a pas de sens. Ce sont les populations qui se protègent le mieux.
Elles s'auto-confinent volontairement.
Volontairement. Donc, et on va les désespérer parce qu'on va faire une situation et pas de like dans lesquelles ils vont avoir les pads à la maison et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça, je n'ai pas vu d'études qui démontrent un bénéfice quelconque de stigmatiser une partie de la population pour lui dire d'aller se confiner.
Alors Anne-Claude Crémieux le disait à l'instant.
On aura un syndrome de glissement parce que les personnes de plus de 75 ans, c'est vraiment des personnes qui vont être isolées et qui vont souffrir le plus de cet isolement. Vraiment, c'est la dernière des choses à faire.
Voilà. Mais surtout au moment où on a la façon de les protéger par le vaccin. Non, ce qu'il faut accélérer, c'est effectivement la protection des personnes fragiles. Et c'est vrai qu'on peut être un petit peu inquiet face au calendrier du ministre parce que rappelons-nous que nous avons au moins 14 millions de personnes de plus de 65 ans et de ce que je comprends, il va falloir plusieurs mois avant de les protéger, ce qui n'est pas forcément le cas des pays, de nos pays voisins. Donc c'est là où il faut faire un effort.
Eh bien, voilà qui nous amène au deuxième sujet sur les vaccinations. Et vous avez raison, on manque de doses à tel point que dans certains centres de vaccination, eh bien, on a dû fermer, faute de doses. Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue à Reims où le maire de la ville ne comprend pas pourquoi les vaccins arrivent au compte-gouttes dans sa ville. Donc, sujet d'Aubry Perrault, David Lemarchand et Juliette Perrault.
Dans ce centre d'appel de Reims, il faut souvent le répéter, plus d'une fois.
C'est complet, madame. C'est complet. Il n'y a plus de place.
Au bout du fil, des personnes âgées qui veulent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Et à chaque fois, la même réponse.
Oui, mais on n'a plus de doses de vaccin. Donc, on nous a dit, voilà, les nouveaux rendez-vous, ça sera à partir du 1er février. Il y a des personnes qui comprennent très vite et il y a des personnes, faut leur expliquer, voilà, mais ils sont pas contents quand même.
Plus de doses, plus de rendez-vous. À Reims, rares sont ceux qui ont pu obtenir le précieux sésame, un créneau pour se faire vacciner.
Comment vous vous sentez ?
Parmi ces quelques chanceux, Jean-Pierre Jacquet, 76 ans.
Voilà, je voulais venir vite, me faire vacciner tôt. Et pouvoir revoir mes petits-enfants qui habitent assez loin, le plus rapidement possible. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour. Maintenant, ceux qui doivent patienter, mais je les plains et je leur souhaite bon courage.
Et du courage, il va en falloir. Car ici comme ailleurs, les stocks de vaccins sont bientôt écoulés. Dans ces conditions, pas d'autre choix que de lever le pied.
On pourrait continuer à vacciner plus, mais on n'a pas les produits, en fait.
Résultat, il faut stopper la campagne pour plusieurs jours, y compris le week-end. Un moment pourtant clé dans le processus de vaccination des seniors.
Sur les week-ends, il y avait une vraie raison. Une raison, effectivement, c'était tous les aidants familiaux qui pouvaient très facilement accompagner des personnes qui sont mobiles, mais ont besoin d'un accompagnement.
Des problèmes qui s'accumulent. Et pour les résoudre, un homme vers lequel tout le monde se tourne, monsieur le maire. Sauf que comme les autres, lui aussi est un peu dans le flou.
Au niveau des vaccins, vous êtes un petit peu informé
et tout ça? Non, pas du tout. Au dernier moment, nous.
Dernier moment.
Bon, bientôt.
Allez, au revoir.
Suite aux annonces du gouvernement, l'élu avait pourtant mis les bouchées doubles pour que tout soit prêt pour l'ouverture du centre. Mais très vite, c'est la douche froide.
On va aller voir combien il nous reste de doses.
Alors que le département attendait l'arrivée de 1000 flacons de 6 doses, seulement la moitié est livrée.
Il a fallu tout le week-end réorganiser ce centre de vaccination au niveau des lignes de vaccination, des plages d'ouverture, des jours d'ouverture, annuler certains médecins également qui s'étaient portés volontaires, des infirmières, des agents municipaux. Donc c'est ce que nous regrettons.
Depuis, le maire a les yeux rivés sur son téléphone à la recherche d'informations sur les prochaines livraisons.
Confirmation de réception des vaccins Moderna.
La date prévisionnelle de l'approvisionnement en vaccin Pfizer est annoncée pour le mercredi 27-1 et non pas le lundi, et sans aucune confirmation de réception des vaccins Moderna.
L'incertitude et la colère contre un gouvernement qui communique beaucoup et renvoie parfois la responsabilité aux élus locaux.
On ne peut pas dire aujourd'hui sur les plateaux télé ou à l'Assemblée nationale qu'il y a eu plus de vaccins qui ont été livrés que de prises de rendez-vous. On ne peut pas dire non plus que ce sont les élus locaux qui sont responsables, qui ont ouvert trop de centres de vaccination alors qu'ils connaissaient le nombre de doses de vaccins. Ça, c'est mensonger, c'est inacceptable.
Dans la communauté urbaine du Grand Reims, environ 1500 personnes ont été vaccinées cette semaine. Loin de l'objectif initial fixé par la municipalité de 1000 personnes par jour.
Sophie Ranche, c'est vrai qu'on voyait le maire de Reims là, qui, dans une grande solitude, hein, disant on n'a pas les doses, on ne sait pas quand ça va venir.
Aucune ville n'a reçu 25 millions de doses compte tenu de la répartition. En fait, les doses sont envoyées dans les villes, dans les départements, en fonction du pourcentage de la population de plus de 75 ans pour le moment. Donc c'est ce calcul-là qu'a fait le gouvernement après avoir envoyé à tout le monde 5 000 doses. Mais maintenant, voilà, c'est au prorata du nombre de personnes de plus de 75 ans dans le département. Après, il y a une grande interrogation, effectivement, de où sont ces doses. Mais il y a effectivement peut-être des centres qui ont proposé trop de rendez-vous, peut-être des problèmes de logistique, mais clairement, il y a une impatience. Souvenons-nous du nombre de personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner en décembre. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Il y a une vraie demande aussi, donc ça a complètement changé. Mon voisin s'est fait vacciner, je veux me faire vacciner aussi. Il y a un emballement que sans doute le gouvernement n'avait pas anticipé parce qu'il s'est trop appuyé sur les 5% d'anti-vaccins qui faisaient peur, alors qu'en fait, il y avait une énorme majorité de la population qui voulait se faire vacciner et qui veut se faire vacciner.
Jean-Paul Hamon, vous l'avez constaté, vous, ce brutal changement de regard sur le vaccin qui est devenu ça est devenu la ruée du jour au lendemain ?
Incontestablement, la seule bonne nouvelle, c'est que les antivax ont perdu. Clairement, les gens veulent se faire vacciner, il y a une très forte demande. Et c'est vrai que... Je ne sais pas comment le gouvernement communique, mais franchement, ils communiquent de telle façon qu'ils font croire à la population que ce sont eux qui sont responsables du manque de doses, alors qu'ils sont complètement tributaires des
livraisons
de l'industrie pharmaceutique. Et c'est quand même dingue. Il y a eu 2 millions de doses. Alors effectivement, il y en a soi-disant 800 000 qui ont été réservés pour les EHPAD. Très bien. Mais il en restait quand même 1,2 million. Ce qui s'est passé à Reims, s'est passé à Clamart. Nous, on savait qu'on allait avoir 420 doses, donc on s'est organisé, on s'est dit, ça va être les deux premières séances, donc on va mettre 3 médecins, 3 infirmières, on va mettre 2 infirmières pour préparer les doses, on va faire en sorte que les infirmières aient le temps de faire 6 doses, puissent préparer les 6 doses avec les flacons de 5, etc., pour qu'elles le fassent sereinement. Et puis, patatrac, samedi, on a touché que 170 doses et on a dû annuler la journée qui était prévue de mardi en fonction des 420 qu'on devait avoir. Et donc là, aujourd'hui, c'est seulement ce vendredi qu'on a vacciné avec les 250 doses qui sont arrivées mercredi. Donc, c'est quand même pas très difficile de prévoir, de dire simplement on a tant de doses, de le dire au moins une semaine à l'avance, qu'on puisse ne pas passer son temps à annuler des rendez-vous. Les médecins libéraux, les infirmières libérales qui se libèrent pour faire des vacations de 4 heures dans ces centres de vaccination, ils ont annulé des consultations. Enfin, on a l'impression que cette administration ignore le métier qu'on fait, ignore qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous et qu'on a autre chose dans la vie à faire que de vacciner et de s'organiser pour vacciner correctement. Il y a une communication qui est désastreuse, les gens ne sont pas contents et c'est normal.
Anne-Claude Crémieux, 823 000 Français ont été vaccinés, ce sont les derniers chiffres. Question téléspectateur, la France a-t-elle rattrapé son retard en nombre de personnes vaccinées par rapport au reste de l'Europe ?
Si on sait bien compter, en réalité, il y a effectivement moins de personnes vaccinées que de doses de vaccins disponibles en France. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi il y a des situations de pénurie, des gens qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, alors même qu'il y a énormément, ça a été rappelé, de personnes, de médecins, d'infirmières qui se sont organisées, de maires, de collectivités locales, et que manifestement, on n'arrive pas à administrer des vaccins qui sont pourtant sur le territoire français.
Mais elles sont où ces centaines de milliers de doses ? Elles sont par exemple, dans vos congélos au sous-sol de l'hôpital Saint-Louis ? C'est la question qu'on se pose. Et pourquoi est-ce qu'elles dans les centres de vaccination à Clamart ?
À Saint-Louis, il y a eu même, effectivement, la semaine dernière, pareil, un moment de rupture. Alors, je pense qu'il y a les doses qui étaient promises par Pfizer qui n'ont pas été livrées et qui ont induit un retard, c'est tout à fait vrai. On espère que tout ça va être largement rattrapé.
Philippe Amouyel, le 29 janvier, l'Union européenne doit autoriser, d'ailleurs on dit que c'est long, hein, le vaccin AstraZeneca. Les Anglais, ça fait 15 jours qu'ils vaccinent avec l'AstraZeneca. Lui, au moins, il est à température normale. Est-ce que ça devrait permettre d'accélérer la vaccination ou d'accélérer la disponibilité des doses ?
Oui, ça va simplifier simplifier le circuit parce que c'est un circuit logistique qui est extrêmement complexe. Il faut quand même prendre la réalité. Parce que c'est moins 70, mais c'est gérable. Mais il faut prendre la réalité des choses, il faut le planifier. Pour le planifier, il faut le faire suffisamment longtemps à l'avance. Et à mon avis, jusqu'au 4 janvier, on n'avait pas planifié ce genre de choses. Donc c'est à partir de maintenant que ça se planifie. Du coup, il y a des problèmes et des aléas. Et ce qu'on peut espérer, c'est que ça va se mettre en route. Et si, en plus, le vaccin d'AstraZeneca Oxford arrive, ça va permettre de faciliter la vaccination, par exemple dans les cabinets des médecins, pas forcément dans les centres. Ça va permettre d'avoir plus de doses plus rapidement, donc c'est positif. Et chaque fois qu'on aura un nouveau vaccin, ça ouvrira une nouvelle chance de vaccination pour le reste de la population et d'accélération de cette vaccination.
Alors Sophie Orange, il y a un autre mystère, c'est que hier à la commission devant le Sénat, oui. Olivier Véran disait on va vacciner 15 millions de Français d'ici l'été, et hier soir sur TF1, on va vacciner 70 millions de Français d'ici l'été. Alors, qui croire, l'Olivier Véran de l'après-midi, 15 millions, ou du soir, 70 millions?
Alors, plutôt celui de l'après-midi devant les parlementaires. Moi aussi, je me suis un peu étranglée parce qu'il n'y a pas 70 millions de Français, de toute façon.
66, oui.
Et puis, tous les enfants ne seront pas vaccinés. En fait, ce qu'il fallait comprendre, visiblement, d'après
vous
le cabinet...
Appelé, vous avez appelé,
je suis quand même allée à la source pour essayer de comprendre, pour décrypter. Voilà, pour, alors, ce qu'il fallait comprendre, c'est que donc, 15 millions de personnes prioritaires seront effectivement vaccinées avant l'été, un objectif absolu prioritaire. Et ce qu'il fallait comprendre, c'est que les 70 millions, c'est... En théorie, ce sera le nombre de doses que nous attendons si les autorisations de mise sur le marché sont données et si les laboratoires tiennent la cadence en termes de production. Donc ce 70 millions de doses, c'est ça, c'est
alors
la
c'est
théorie
pour 35 millions
de livraison.
Comme il faut deux doses, c'est pour 35 millions de Français.
Alors, comme on ne sait pas, c'est un chiffre général, donc Astra, tous les vaccins n'ont pas deux doses, donc c'est un petit peu difficile de rentrer dans ces détails. Mais moi, je trouve que ces chiffres, on s'y perd à force de donner les chiffres, on brouille complètement cette campagne de vaccination. Les Français entendent des millions partout et eux, on annule leur rendez-vous. Donc je pense qu'il y a un décalage qui crée de l'insatisfaction et de l'impatience. On verra dans 2-3 mois quand les choses se seront mises en place. Mais comme la course contre la montre, contre le variant, se joue à une semaine, deux semaines, pour ne pas dire trois jours, voilà, ces retards de livraison Pfizer ont une vraie conséquence.
Alors Anne-Claude Crémieux, va y avoir un classement dans les vaccins parce qu'on sait très bien que le AstraZeneca qui va arriver en février, il est moins efficace. Donc les gens vont dire, attendez, mais moi je veux le vaccin, mais je veux le bon. Je veux le Pfizer ou le Moderna. Qui a une efficacité à 95% et pas le AstraZeneca, qui a une efficacité à combien? À 60
On attend les derniers. C'est pour ça que c'est un petit peu long.
Ça dépend des populations, ouais. Ça dépend des classes d'âge.
Anne-Claude Crémieux.
Oui, et ça dépend aussi des doses. Vous avez vu qu'il y a finalement deux résultats d'efficacité pour le AstraZeneca selon la dose qui est administrée à la deuxième injection. De façon un peu paradoxale, avoir une demi-dose comme deuxième injection marche mieux que d'avoir une dose pleine. Donc si ça se trouve, on aura des résultats avec la nouvelle stratégie demi-dose qui arriveront à 90%, c'est-à-dire proches de ceux des ARN messagers. Mais vous avez raison de dire qu'on va disposer d'un panel de vaccins avec des efficacités peut-être un petit peu différentes. C'est pour ça que je parlais de révolution, c'est que c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que les vaccins ARN messagers, donc c'est la première fois qu'on a des vaccins ARN messagers, ont réussi cette performance à la fois d'avoir une efficacité vaccinale très importante, hein, 95%, et en plus d'être les premiers vaccins disponibles, puisqu'on sait que ce sont des vaccins qui sont facilement, enfin qui sont assez rapides à fabriquer, ce qui est aussi un espoir, puisque à moyen terme ou à long terme, on l'a commencé par ça dans l'émission, vu le fait que ce virus a l'air d'avoir des capacités pour muter, on aura vraisemblablement des vaccins qui vont s'adapter. Et là, le fait d'avoir ces vaccins ARN messagers avec une adaptation très rapide, c'est un espoir formidable.
Jean-Paul Hamon, alors vous avez été vacciné, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le Moderna ou le Pfizer, vous avez également eu le Covid. Alors quand on a été vacciné et qu'on a en plus eu le Covid, donc on a des anticorps, on se sent comment? On se sent quand même, c'est ceinture et bretelle là, vis-à-vis du coronavirus?
Oui, c'est-à-dire que vous savez, j'ai quand même été contaminé il y a 9 mois et étant donné mon grand âge, j'avais une immunité qui n'était pas garantie, même si... on dit que les anticorps ne suffisent pas pour mesurer le taux d'immunité. Donc je me suis fait vacciner et puis ça a eu valeur d'exemple. Vous savez, les patients qui vous demandent, bon, alors ils ont su que j'avais été vacciné et donc c'est ça qui était important, si vous voulez. Là, moi, tous mes patients se vaccinent hein, et ils sont très demandeurs. Ils font partie des 2000 ou des 2500 qui sont sur la liste d'attente de la mairie de Clamart qui vaccine à peu près à 420 par semaine. Donc, on n'est pas rendu. Et quand j'entends Olivier Véran qui nous dit qu'on va en vacciner je ne sais pas combien d'ici l'été, Je me demande de temps en temps s'il n'a pas fumé la moquette, là, parce que franchement, au rythme où on va, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Philippe Amouyel.
Je crois que sur l'efficacité des vaccins, il n'est pas forcément nécessaire que tout le monde soit à 95%. Il a deux fonctions, le vaccin. Protéger des formes graves et des complications, donc les plus vulnérables, c'est ces vaccins qu'on a en premier. On vaccine les plus de 75 ans, c'est la bonne cible. Ensuite, on va avoir progressivement une augmentation de la couverture vaccinale qui va faire que même si vous n'êtes pas vacciné, théoriquement, au-delà de 70% de couverture, vous allez quand même être protégé. C'est la population qui va faire barrage autour de vous, ce qui fait que les antivax, eux, ils vont quand même être protégés, tant mieux, et c'est important. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc il ne faut pas jouer en disant « ah oui, moi je veux le Moderna, moi je veux etc. » Non, il faut voir qu'il y a une phase, qu'il faut être vacciné, et que là, on vaccine dans le bon ordre, c'est-à-dire les plus vulnérables avec les plus efficaces.
Parce que le virus ne peut plus circuler dès lors que votre entourage, lui, est vacciné.
Et l'idée, c'est de pas de mélanger les marques sur une même personne. C'est-à-dire que si une personne est vaccinée en première injection avec le Pfizer, l'idée, c'est que la deuxième injection soit le Pfizer. On va pas mettre du Moderna avec du Pfizer, l'AstraZeneca, voilà, parce que ça va quand même perturber beaucoup les résultats en termes d'efficacité. Donc, si on commence par Pfizer, on terminera avec Pfizer. Si on commence avec Moderna, on terminera avec Moderna.
Alors, on connaît la triptyque, hein, tester, tracer et isolé. Alors, isolé, c'est l'objectif assigné aux brigades Covisan. Covisan qui sont chargées de dépister les cas contacts et aider les personnes infectées à s'isoler correctement. Julien Launay et Stéphane Lopez ont accompagné pendant toute une journée les professionnels des hôpitaux de Paris lors de ces visites à domicile. On regarde le reportage.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
L'heure est au préparatif. Hein ?
On a 4 arrêts, on va dans le 9-4, le 7-7, le 93 et on retourne sur Paris. Donc 7 prélèvements sur 4 arrêts.
Okay.
J'ai déjà commencé à préparer le pactage. J'ai prévu 10 prélèvements du coup, les consentements, les notes d'information avec le numéro du labo, solution hydroalcoolique pour les patients.
Surtout ne rien oublier avant de partir en tournée. Ce jour-là, Estelle et Léa se retrouvent en binôme pour sillonner une partie de la région parisienne. C'est l'une des équipes mobiles d'un dispositif mis en place en Île-de-France lors du premier confinement. Son nom, Covisan. Son but, casser les chaînes de transmission du virus.
Là, au bout, tu tournes à gauche.
Estelle, 27 ans, est aide-soignante. Léa, 26 ans, vient d'obtenir son diplôme de dentiste. Leur mission, effectuer des visites à domicile chez des cas contacts ou des personnes symptomatiques. Il s'agit notamment de dépister. Une fois sur place, c'est toujours le même rituel.
Alors, on a une surblouse, on a le masque, évidemment. Celui qui est préleveur a mis un FFP2 et une charlotte.
Une famille a sollicité leur présence pour se faire dépister. Mais l'équipe en profite pour faire de la pédagogie, répondre aux questions et s'assurer que rien ne sera laissé au hasard.
Souvent, les gens vont nous poser des questions sur leur situation, leurs enfants qui sont à l'école. Ils vont voir leur grande-tante qui est dans un centre. Est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'au final, parfois, les règles, on a un peu du mal à comprendre concrètement comment on les applique nous-mêmes dans notre quotidien. Et puis voilà, parfois aussi des petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, par exemple, de garder ses poubelles 24 heures pour éviter d'aller contaminer des eaux boueurs, tout ça. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. La période de 7 jours d'isolement, elle commence au moment où vous êtes testé. Si jamais vous avez des symptômes, notamment de la fièvre qui persiste, hein, cette période d'isolement, elle peut être allongée. Hein, d'accord ?
Jusqu'ici, près de 7500 visites à domicile ont pu être effectuées dans le cadre de Covisan. Certaines sur demande et d'autres après signalement par un médecin traitant ou un pharmacien.
Bonjour, c'est Nadia de la plateforme Covisan des hôpitaux de Paris. Je vous appelle parce que vous avez dû effectuer un test PCR ou un test antigénique il n'y a pas très longtemps.
Dans ce centre d'appel, l'objectif est double. Prise de contact avant l'envoi d'une équipe mobile et accompagnement des malades dans leur isolement.
Une personne qui est vraiment pas bien, qui doit garder ses enfants, qui eux vont très bien et qui sont pas du tout gérables pour quelqu'un qui est alité toute la journée, par exemple, on peut avoir une aide à la garde d'enfants. Il pourrait très bien aussi le patient avoir besoin d'une aide pour un hébergement hors domicile. Typiquement, on peut avoir des cas de personnes qui vivent avec leurs grands-parents ou avec leurs parents, ou une personne qui est fragilisée et il se retrouve dans la même pièce et cette personne-là, elle n'est pas encore contaminée. Donc le but, c'est vraiment, à partir du moment où il y a un risque et qu'on peut l'éviter, on peut proposer à ce moment-là d'être hébergé hors domicile.
Covisan ou l'application concrète de la stratégie du gouvernement, à savoir tester, tracer et isoler. Outil précieux, surtout au moment où une course contre la montre est engagée pour faire face aux variants. Encore faudrait-il étendre son champ d'action, estime ce spécialiste.
Un dispositif de type Covisan peut tout à fait aider à ralentir ça, mais à condition que chaque fois que quelqu'un a une PCR, on vérifie si c'est le variant, et si c'est le variant, on envoie une équipe. Ça représenterait quelques centaines de personnes par jour à aider. Donc c'est tout à fait faisable, mais ça nécessite bien sûr de généraliser le dispositif. Donc on reste avec une dizaine d'antennes en région parisienne, et on a pris en charge, je sais pas moi, une soixantaine de milliers de personnes. Mais on n'est pas à l'échelle de l'épidémie, ça dépend bien sûr des autorités sanitaires.
En décembre, Jean Castex avait pourtant annoncé une généralisation des visites à domicile à partir de janvier, sur le modèle du dispositif Covisan.
Question téléspectateur Sophie Orange, pourquoi le dispositif Covisan n'a-t-il pas été généralisé ? Question de Gérard dans la Haute-Vienne. L'isolement, c'est l'angle
bonne question,
mort.
Hein. Bonne question. Et non seulement c'est l'angle mort, mais il a même disparu du triptyque officiel. C'est-à-dire que désormais, même dans les campagnes qu'on entend à la radio ou dans le discours gouvernemental, c'est tester, tracer, protéger. Le mot isolement ne figure même plus, alors que l'isolement, c'est le premier mot. C'est-à-dire que vous êtes qu'à contact, c'est isolement, j'attends 7 jours, test et je protège les autres. Donc c'est vraiment en s'isolant qu'on évite la propagation du virus.
Jean-Paul Lamont, quand vous annoncez à quelqu'un qu'il est positif au coronavirus et qu'il faudrait qu'il s'isole 7 jours, qu'il reste chez lui sans voir personne, comment réagit-il ? Que vous dit-il ?
Je voudrais juste revenir sur Covisan, qui est un exemple de collaboration ville-hôpital. Ce qui s'est passé sur la région parisienne a été remarquable, c'est une vraie collaboration. Ce qui nous fait regretter quand même les propos récents du président de la Fédération hospitalière de France, M. Valtoux, qui s'est exprimé devant une vingtaine de généralistes pour dire que si la vaccination avait eu du mal à démarrer, c'est parce que les médecins libéraux et les professionnels de santé libéraux avaient eu du retard à l'allumage. Donc, c'est pas comme ça qu'on va favoriser la nécessaire collaboration entre la ville et l'hôpital.
Sur l'isolement, Jean-Paul Lamont, est-ce que les gens s'isolent de bonne grâce ou est-ce que vous avez l'impression que c'est absolument pas dans la mentalité de nous, Gaulois, réfractaires, comme on dit ?
C'est pas facile, l'isolement. Vous savez, quand vous êtes à domicile, moi, j'ai vu, par exemple, un couple qui était à domicile avec leur grand-mère. Il aurait mieux... Si on avait pu mettre la grand-mère dans un hôtel, ça aurait été bien parce qu'ils ont eu, tous les deux, ils ont été positifs. Ils ont pris un luxe de précaution et la grand-mère l'a chopé. Et heureusement, c'est elle qui a fait la forme la plus bénigne. Mais franchement, là, ça aurait été intéressant de pouvoir l'isoler complètement, la mettre dans un hôtel jusqu'à ce que les deux autres personnes ne soient plus contagieuses.
Philippe Amouyel, ça n'a rien à voir. À l'instant, déclaration de Boris Johnson, dépêche AFP de 18h24. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui annonce que le variant anglais, je cite, « pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevé ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?
Ça veut dire qu'en valeur absolue, plus vous avez de gens contaminés, plus la proportion, malheureusement, de gens qui vont décéder va augmenter. Donc, en nombre absolu, il va y avoir beaucoup plus de morts. Ils sont à plus de 1000 morts, là, actuellement, par jour, ce qui est absolument énorme. Mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'il est plus prompt à se multiplier, à se transmettre, mais il n'a pas... plus
en pourcentage,
de
il n'est pas plus ouais. mortel. Voilà.
Voilà, c'est ça. Mais le nombre absolu est plus mortel et fait plus de morts, malheureusement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inquiéter outre mesure. Boris Johnson, voilà, c'est peut-être une déclaration prise hors contexte aussi. Pour le moment, aucune étude scientifique n'a prouvé qu'il est plus mortel. Ce qu'on ignore en revanche, c'est s'il est 40% plus contagieux ou 70% plus contagieux. Ce qui change quand même énormément la cinétique et la progression de son arrivée en France. Et d'ailleurs, les scénarios des épidémiologistes de l'INSERM qui ont été publiés en début de semaine ont fait deux hypothèses. Si le virus est 40% plus contagieux, à ce moment-là, le confinement, ou le pic, en tout cas, arrivera plus tard. En revanche, si c'est 70% plus contagieux, le pic des hospitalisations arrivera plus tôt. Donc, en fait, ces scénarios sont basés sur des hypothèses assez différentes, finalement, de contagiosité de ce virus.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, la prochaine fois, on saura. Il suffit de dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde pour que les gens se précipitent sur le vaccin.
Ah oui, c'est un système de pénurie. C'est comme pour les soldes.
Sophie Orange,
c'est comme pour les soldes quand on sait qu'il y a...
C'est devenu un trésor.
Les soldes, je veux absolument le modèle télé, machin. Donc, il y a 300 personnes devant le magasin à 8 heures parce qu'on veut absolument l'avoir. Pardon pour cette comparaison un peu triviale, mais il y a sans doute un peu de ça. On veut toujours... Et en plus, on veut toujours ce que le voisin a. Et quand on ne l'a pas, on le réclame.
Tant mieux.
Quand on est allergique, quel vaccin faire ? Question de Denise en Haute-Garonne. Philippe Amouyel.
Aujourd'hui, sur les deux qu'on connaît, le Pfizer et le Moderna, la seule contre-indication, c'est avoir fait une forme extrêmement grave d'allergie qui est un choc anaphylactique. Hein. C'est à peu près dans moins de 5% de l'ensemble des gens qui sont allergiques. De toute façon, quand on le fait, qu'on réalise cette vaccination, à ce moment-là, il y a 15 minutes d'attente, voire 30 minutes si les gens ont un terrain allergique, mais jusqu'à présent, un grand nombre de gens ont été vaccinés et il y a eu les nombres attendus de cas de choc anaphylactique en France, tout au moins.
Sophie Orange, faut-il craindre un retour imminent des cours par visioconférence et du distanciel dans les écoles, collèges et lycées ? Écoles, collèges, lycées. On sait que le gouvernement se targue de ne pas fermer les écoles.
Alors, c'est vraiment, on a l'impression quand même, à l'heure où on se parle, que le gouvernement ne veut pas fermer les écoles. Jean-Michel Blanquer tient absolument à cela. Bruno Le Maire indirectement aussi, parce que si les écoles sont fermées, les parents ne pourront plus aller travailler, donc il y aura une conséquence économique. Mais on a quand même l'impression que la fermeture des écoles, c'est la dernière mesure du dernier bout de la mesure
la plus
stricte.
La seconde première terminale.
Alors, ça pourrait être alors là déjà, il y a des protocoles qui sont mis en place pour éviter le plus possible le présentiel, des nouveaux protocoles à la cantine. Le ministre Blanquer a déclaré ce matin, il se trouve que c'était sur RTL, mais voilà, il n'y a pas plus de cas de contamination. En ce moment, dans les établissements scolaires, c'est toujours à 0,3%.
Anne-Claude Crémieux, mettre deux masques l'un sur l'autre, est-ce efficace ? Est-ce que c'est le genre d'astuce que vous avez déjà vu ?
Comme Joe Biden.
Ça a été fait, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment la solution. Je pense que l'important, c'est de porter un masque correctement et de le porter tout le temps. Ça a été bien démontré. Les personnes qui s'infectent, ce sont en général des personnes qui ne portent pas tout le temps le masque. En tout cas, ça a été vraiment très significatif dans les enquêtes sur les gens qui s'étaient infectés.
Si le troisième confinement devait arriver, pensez-vous qu'en raison de la vaccination intensive, il serait le dernier ? Question de François à Paris, Philippe Amouyel.
Tout dépend de la vitesse avec laquelle on va vacciner. Si jamais il y avait un confinement, il y aurait peut-être une mesure à prendre qui serait de baisser le niveau rapidement en faisant par exemple un test massif des populations pour à nouveau isoler en particulier les cas asymptomatiques qui retransmettent, parce que dès qu'on va déconfiner, ça va redémarrer. Donc il faut essayer de baisser le plus possible le niveau, profiter que les gens sont à la maison et qu'ils ne peuvent rien faire d'autre et déclencher des campagnes massives de dépistage pour justement faire en sorte que ces gens, si le confinement dure 10 jours, restent encore confinés un petit peu plus quand ils sont positifs. Et ça aura une utilité sur le seuil. Mais dès qu'on va redéconfiner, ça va repartir.
Un confinement précoce a l'avantage peut-être d'être plus court aussi.
Anne-Claude Crémieux, Israël commence-t-il à observer les effets de sa campagne de vaccination massive ? Question de Benoît, dans le Maine-et-Loire, ils en sont à plus de 20% de la population vaccinée là-bas.
Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas lu les derniers chiffres et je ne suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles, mais c'est effectivement assez remarquable ce qui se passe là-bas. On l'a dit, c'est vraiment éviter les nouveaux confinements, c'est protéger la population qui est susceptible de faire des formes sévères, des formes qui sont hospitalisées. Une fois qu'on aura protégé cette population, on sera quand même plus ou moins à l'abri d'un nouveau confinement, puisque l'objectif du confinement, il faut bien le dire, c'est d'éviter la saturation des hôpitaux, c'est pas d'arrêter la circulation du virus.
C'est pour ça pour les hôpitaux. Philippe Amouyel, on lit quand même que sur Israël, il y a beaucoup de vaccinations. Mais il y a aussi, par ailleurs, beaucoup de contaminations, à tel point que certains complotistes disent « Vous voyez bien que ce vaccin ne marche pas ».
Il y a des chiffres qui ont filtré hier. Apparemment, ils ont beaucoup moins de formes graves à l'hôpital. Les taux de contamination commencent à diminuer. Donc, il y a des effets qui apparaissent. Là, ce n'est pas encore publié, mais il y a des éléments qui ont fuité sur Twitter et qui montrent qu'en effet, ça marche. Ils ont pu d'ailleurs mesurer également, après la première dose de la vaccination, ils ont mesuré le taux de formes graves, ils sont aperçus qu'il était réduit à peu près de moitié. Or, Pfizer avait dit qu'après 3 semaines de première dose, on pouvait réduire son risque de 52%. Donc, ça colle assez bien avec ce qui a été fait dans l'essai de Pfizer.
Anne-Claude Crémieux, j'ai eu le Covid il y a 2 mois. Suis-je immunisé contre le variant anglais ?
Alors, vraisemblablement, oui, d'après ce qu'on sait, puisque, on l'a dit, le sérum des gens qui sont convalescents reste neutralisant contre le variant anglais. Donc, pas d'urgence à se faire vacciner, puisque l'infection est récente.
Ce qui n'est pas le cas vis-à-vis du variant sud-africain ou brésilien, apparemment.
Non, mais qui est moins, heureusement, à ce qu'on sait, puisqu'il faut être très prudent. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il est moins étendu sur le territoire, en tout cas, c'est clair.
Jean-Paul Hamon, j'ai 77 ans et que ce soit par téléphone ou Internet, impossible de s'inscrire pour être vacciné. Est-ce que c'est une remarque que vous entendez souvent ?
Ah ben là, j'entends ça tous les jours en ce moment. Je vous disais, sur notre liste de vaccination, là, il y a plus de 2000 personnes maintenant qui sont en attente. Et puis, il se pose un problème qui est un petit peu délicat en ce moment parce qu'on ne peut pas faire attendre les gens qui sont en chimiothérapie. Ils ont un créneau très étroit pour se faire vacciner. Et donc, il va falloir qu'on commence à les intercaler dans les listes pour que ça coïncide avec la période favorable pour les vacciner. C'est pas rien. J'en ai trois qu'il va falloir que je case et il va falloir que j'aille voir directement à la mairie comment je peux faire.
Avec tous ces variants, en finirons-nous un jour de la Covid ? Faudra-t-il se faire vacciner plusieurs fois ? Question de Laurent à Paris, Philippe Amouyel. Est-ce qu'on peut imaginer que ce virus devienne saisonnier, un peu comme le virus de la grippe, hein ? Chaque année, il faut se refaire vacciner pour être immunisé.
Alors, on a déjà une expérience avec les coronavirus de type A, ceux qui font les petits rhumes, et à chaque fois, on en refait. Donc, il n'y a pas apparemment d'immunisation, mais on n'a aucune expérience. Il va falloir voir ce qui va se passer. On n'a même pas suffisamment de recul actuellement. On a 8 mois de recul sur le vaccin. Donc, il faut voir ces éléments. L'autre élément, c'est quand on mesure l'efficacité, on le fait à partir des anticorps sanguins. Or, le virus, il passe d'abord par les voies respiratoires. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'anticorps, D'accord. Les mêmes types d'immunité. Donc, on ne peut pas nécessairement préjuger de ce qui va se passer. Donc, il faut attendre de voir et de progresser. Mais la seule chose à faire, c'est de vacciner.
Anne-Claude Crémieux, la proportion d'asymptomatiques est-elle la même avec le variant anglais ?
Je ne peux pas vous répondre parce que ça n'a pas été réellement regardé, en tout cas pas à ma connaissance. Non, je ne peux pas vous répondre. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le spectre de la maladie est identique. Donc, a priori, ça ne devrait pas changer la répartition entre symptomatique et asymptomatique. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça a été vraiment regardé de très, très près.
Sophie Orange, à quand la réouverture des bars, restaurants, cinéma, théâtre et musées avec jauge et protocoles renforcés ? On le sait qu'en Italie, en Espagne, ils ouvrent des musées, en Espagne, il y a l'opéra, etc.
Alors clairement, le gouvernement ne donne plus de dates parce que les dates créent une énorme attente et une énorme déception derrière. Donc la dernière date connue, c'était le 20 janvier, il y avait une clause de revoyure. Donc là, dans les dernières déclarations du gouvernement, il n'y a plus de date, par exemple, le 25 mars, etc. C'est plutôt... Avril, voyez, avril après le printemps. Est-ce que les musées commenceront à ouvrir ? C'était évidemment le vœu de Roselyne Bachelot avant l'arrivée du variant anglais qui change quand même complètement la donne.
D'un point de vue de la contamination, Philippe Amouyel, est-ce qu'on peut imaginer que les restaurants sur des terrasses puissent servir sans danger ou bien non ? C'est le principe de précaution.
Les restaurants, je ne sais pas, parce que c'est quand même un lieu de contamination. En revanche, les lieux culturels, je crois qu'il faut qu'on se pose réellement la question. On s'est posé la question pour les commerces et on s'aperçoit que ce n'est pas ça qui a expliqué le plateau, donc c'est une bonne chose pour les commerces. On peut faire la même chose, mais il faudrait peut-être faire des expérimentations. Barcelone l'a fait. On peut tout à fait, en France, faire des expérimentations sur des musées, sur des salles de concert, pour voir, avec des jauges, avec des mesures barrières et des protocoles bien expliqués, si on ne pourrait pas commencer à avoir un peu d'ouverture. Donc ça, c'est des choses auxquelles nous on réfléchit, on essaie de monter des études là-dessus. Et je pense qu'il y a une vraie ouverture parce qu'on va quand même avoir un petit moment d'attente. Encore.
Il y a une expérience à Barcelone, ils ont organisé un concert avec un protocole très strict puisque les spectateurs avaient des masques FFP2 et qui a montré qu'il n'y avait pas plus de cas positifs parmi les gens qui avaient assisté au concert. Donc ça peut être peut-être quelque chose à faire en France.
Tout à fait. Et en plus, c'était un club, l'Apollo Club de Barcelone. Et c'est pour ça qu'ils leur ont mis des FFP2 parce qu'ils avaient le droit de danser sans distanciation physique.
Alors, où en est-on dans l'évolution des traitements des malades, Anne-Claude Crémieux, en matière de traitement ?
Alors, en ce qui concerne les traitements, on reste avec l'amélioration quand même importante de l'utilisation des corticoïdes chez les patients qui ont besoin d'oxygène, qui ont vraiment fait diminuer la mortalité. En dehors de ça, il y a eu des petites avancées avec d'autres traitements, mais c'est vrai que le traitement qui a vraiment fait diminuer la mortalité, c'est l'administration de corticoïdes pour les personnes qui ont besoin d'oxygène. Et ça se voit, je dirais presque à l'œil nu, dans nos services de médecine, où on voit les patients s'améliorer très clairement quand on introduit ces corticoïdes, en général vers le 7e jour, au moment où ils s'aggravent et qu'ils ont besoin d'oxygène.
Donc ça veut dire qu'on est mieux pris en charge, on a moins de chances de terminer en réanimation intubée ?
Oui. Oui,
c'est quand même là aussi clairement. Une bonne nouvelle. Bon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct. C'est dans l'air, je le rappelle, est diffusé gratuitement en podcast sur toutes les plateformes gratuites audio, un podcast audio. Je vais les citer, Deezer, Apple Podcasts, Castbox et Spotify. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous.